Long rebound. Steph, no timeout with six. At five, Curry for the lead.
Always, always, always.
Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque lundi pour un podcast sur Basket Session Reverse pour aller un peu plus loin et en détail sur un sujet d'actualité ou non. Aujourd'hui, ce sera de l'actualité parce que comme vous le savez, il y a eu la loterie pré-draft, la traditionnelle loterie qui nous permet d'arrêter avec l'art divinatoire en termes de mock draft et autres prévisions. On sait quelles équipes drafteront au premier tour de la draft 2024. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, je suis avec Maxime. Maxime, comment ça va ?
Eh ben, ça va très bien, Shai. Très content d'être là avec toi et de faire ce podcast, en plus avec l'actu hyper intéressante qu'on a eue hier soir. On va se régaler, je pense.
Bah ouais, les gens t'ont peut-être vu déjà sur la late session quand t'étais venu, jouer il y a quelques jours. Maxime, que vous pourrez retrouver sur Basket Session là, dans les jours qui viennent, vous pourrez lire ses articles. Vous pouvez aussi le lire le reste du temps sur BiBasket. Parce que contrairement à nous, Maxime est bien plus calé, il est calé sur le basket français et européen. Donc c'est un ajout de qualité à l'équipe. Et d'ailleurs, ses connaissances vont nous servir aujourd'hui pour discuter notamment de certains prospects français et peut-être autres.
Tu mets la pression là, Chérie.
Voilà, mais bon, je pense que, voilà, j'ai confiance.
On va faire au mieux.
Voilà. Donc cette loterie pré-draft qui a eu lieu dimanche et qui a réservé quelques surprises. Parce qu'on attendait les équipes les plus médiocres avec le first pick. Alors, bon, il faut évidemment préciser que c'est une draft. On n'est pas sur la draft la plus attendue du siècle. Hein. C'est pas faire offense aux joueurs qui vont être draftés cette année. On n'est pas sur quelque chose de Wembanyamesque en termes de hype. Hein. On n'est pas là-dessus. Par contre, ça reste quand même très intéressant parce que ce sont des joueurs qui vont débarquer dans la ligue et peut-être en devenir les futurs visages. Le first pick, surprise du chef, arrive du côté d'Atlanta. Qui, si je ne m'abuse, avait 3% de chance de le décrocher. C'est une équipe qui a quand même fait le play-in et qui se retrouve avec le first pick, première fois depuis 1975. Et la draft d'un joueur dont j'aime beaucoup l'histoire. Évidemment, ce n'est pas un de mes contemporains, mais j'ai beaucoup aimé son histoire et ses highlights. David Skywalker Thompson, modèle référence pour Michael Jordan. Et depuis, ils n'ont pas eu le first pick. Et même ce joueur-là, déjà, il n'avait jamais joué pour les Hawks puisqu'il était parti en NBA. Avec les Denver Nuggets. Donc les Hawks qui récupèrent le first pick. Je vais énoncer les 14 en fait, et puis après on en discutera, je te demanderai un peu ce que t'en penses. Atlanta, donc le premier. Washington draftera en deux. Les Houston Rockets, qui font une belle montée un peu inespérée aussi, qui auront le troisième pick. San Antonio, quatrième pick. Les Detroit Pistons, qui doivent maudire ces loteries, puisque malgré leur médiocrité des dernières années, ils sont encore hors du top 3.
À chaque fois.
Voilà, ils sont 5e. Charlotte 6e, Portland en 7e position, les Spurs à nouveau en 8e. Du coup, ça c'était aussi une des intrigues de cette loterie. Il fallait savoir si les Raptors allaient transférer, enfin si ce choix qui appartient initialement aux Raptors allait passer du côté des Spurs, et c'est le cas. Donc les Spurs auront le 4 et le 8. Les Memphis Grizzlies auront le 9, le Utah Jazz le 10, les Chicago Bulls le 11, Oklahoma City qui est la deuxième meilleure équipe au niveau du bilan saison régulière qui aura le 12, les Sacramento Kings en 13 et Portland à nouveau après le 7 qui aura le 14. Alors, première réaction, quand tu as vu comment tout ça s'était déroulé, qu'est-ce qui t'a frappé, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, qu'est-ce qui t'a surpris ou intéressé en particulier, Maxime ?
Bah écoute, je pense comme tout le monde, j'ai été hyper surpris de voir les Hawks finalement hériter de ce premier choix. On s'y attendait vraiment pas, hein. Tu l'as dit, ils avaient 3% de chance, ils étaient surtout 10e dans la course au first pick, hein. On peut rappeler un peu dans les pourcentages, hein. Donc les deux plus mauvaises équipes étaient à 14%, donc Détroit et Washington. Et derrière, ça s'égrenait, on avait Charlotte, Portland, San Antonio, Toronto, Memphis, Utah, Houston et Atlanta, donc en 10e position dans les probas pour aller choper le premier choix. Donc ouais, grosse surprise, mais finalement... Bonne surprise, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Mais voilà, me dire que potentiellement Alex Sarr pourrait arriver dans une équipe des Hawks qui est quand même connue plus pour son back court, que pour son front court, avec des big men qui ne sont pas les joueurs les plus importants de la rotation. Je trouve le contexte pas trop mal. On peut rappeler aussi que Alex Sarr, s'il est retenu par les Hawks, il a évolué à Atlanta pendant 2 ans avec l'Overtime Elite. Donc ouais. C'est une ville en plus qu'il connaît bien. Donc voilà, surprise, mais plutôt une agréable surprise. On se plaint souvent, on s'est plaint toute l'année de voir Wembanyama jouer avec des pseudo-meneurs ou des
Ouais.
meneurs de second, voire troisième rang. Je me dis que voilà, jouer aux côtés d'un Trae Young qui sait quand même, même si c'est un shoot first, c'est un meneur shoot first, c'est quand même un garçon qui sait faire briller les coéquipiers, bah, ça peut être pas mal.
Je suis assez d'accord avec toi parce que alors, ce qui était un peu traître avec cette draft où il n'y a pas de consensus sur un joueur en particulier comme Yoko Wembanyama, on entendait beaucoup Alex Sarr, Zachary Risacher, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais Sarr a longtemps été numéro 1 de plusieurs mock drafts et puis il a ce profil de joueur qui peut être numéro 1 de draft. Et ce qui m'inquiétait un peu, je t'avoue, c'est qu'il atterrisse, alors ce sera peut-être le cas, hein, je dis ça, mais là on part du principe qu'Atlanta va peut-être le
Sûr.
drafter et son profil d'intérieur. Athlétique, qui court beaucoup, justement, va avec les besoins d'Atlanta. Ce qui est intéressant, c'est qu'il tombe pas dans une équipe où, je pense, en tout cas, les gens vont attendre à ce qui marque 20 points dès sa première
Ouais, c'est sûr.
saison. C'est un joueur qui est d'abord, qui me semble plus prêt défensivement qu'offensivement. C'est pour l'instant son bagage est un peu plus, costaud de ce côté-là. Et j'avais peur qu'il atterrisse, par exemple, à Washington, je pense à Charlotte, peut-être même Détroit, où quand t'as un joueur drafté aussi haut, tu t'attends tout de suite à un impact offensif immédiat. Là,
Ouais.
comme tu le disais, le fait qu'il arrive, c'est clairement l'équipe de Trae Young, hein, même si les résultats sont pas fantastiques, on sait qu'il y a un leader, que les gens vont d'abord attendre que Trae Young soit performant. Et derrière lui, il arrivera avec un peu moins de pression. Et j'en parlais avec Antoine ce matin dans le CQFR, ça me fait penser un peu à ce que. Alors, les profils ne sont pas les mêmes, encore une fois, mais Chet Holmgren en arrivant à OKC, alors il y avait des attentes. Parce que c'est un
Bien
joueur très
sûr.
fort avec gros potentiel, mais on savait que c'était l'équipe de Shai Gilgeous-Alexander qui avait aussi d'autres joueurs compétents offensivement derrière. Et je me dis que si Alexa arrive à Atlanta, comme tu le disais, il y a des joueurs qui sont attendus pour scorer, Trae Young, Jalen Johnson. On imagine que Dejounte Murray va peut-être pas rester, parce que c'était dans les rumeurs, mais du coup il aura le temps de progresser, de se concentrer sur la défense. Et je trouve que ce serait une bonne chose si c'est ce qui se passe, ouais.
Ouais, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. On peut ajouter aussi qu'ils ont un bon coach, la personne de Quinn Snyder, même si cette année il n'a pas fait des miracles, malheureusement, pour eux. Mais complètement d'accord. C'est un contexte hyper intéressant pour. Alors que tu le disais, c'est pas un consensus numéro un de draft, et on verra s'il l'est d'ailleurs. Ça reste un peu un diamant brut, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir encore le dépolir un peu. Il est beaucoup plus abouti défensivement. On l'a vu en cette saison avec Perth, hein. Il jouait en Australie, on le rappelle, toute la saison. Je crois qu'il est en vacances depuis un bon mois et demi maintenant. Ils ont disputé les playoffs, mais je crois qu'ils sont arrêtés en demi, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Mais voilà, 17 minutes de temps de jeu, 1,3 blocs par match, donc voilà, un garçon qui est capable d'apporter pas mal de ce côté-là. De ce que j'ai lu d'ESPN dans leur rapport et la mock draft qu'ils ont mis à jour hier soir, suite à la loterie, c'était que le spacing qu'il peut apporter avec son shoot externe intéresserait beaucoup les Hawks, et sa capacité aussi à protéger un peu le cercle. Alors, ils ont Clint Capela, mais qui est un peu vieillissant maintenant, qui est moins la version de lui-même qu'il était à Houston.
Et il est à un an de la fin de son contrat, si je m'abuse, donc il est peut-être aussi transférable dès cet été.
Et complètement. Exactement, ça, j'avais pas l'info, donc c'est clair. Et Onyeka Okongwu, qui est intéressant, maintenant, il n'a peut-être pas la dimension d'un starter, et encore moins peut-être d'une star de la ligue. Donc, super contexte, voilà. Donc, je suis plutôt content de ce tirage-là. Je le préfère là que dans certaines équipes. On peut penser à Détroit, par exemple, où j'aurais été un peu moins emballé. Il y aurait un peu plus de concurrence avec des jeunes joueurs en plus. On peut penser à Jalen Duren sur le même poste, avec un profil très différent, certes. Mais non, plutôt une bonne surprise.
Ouais, je suis d'accord. Alors, encore une fois, on est dans l'hypothétique, hein. C'est juste que
Complètement.
là, avec le fait qu'on connaisse maintenant les équipes qui vont drafter, on peut un peu plus se projeter. Mais il y a d'autres équipes aussi qui sont peut-être parmi les. Donc Atlanta est parmi les gagnants, ça c'est assez clair.
C'est clair.
Tu veux dire, tu joues le play-in et tu te retrouves avec le first pick. D'ailleurs, on dit ça,
C'est énorme.
mais c'est pas impossible enfin, on l'a déjà vu par le passé, ils peuvent aussi trader le pick et tenter un move, ce qui est pas impossible. Avant qu'on commence le
Beaucoup les
podcast, on
Cavs de
parlait
2014, hein. Ouais.
voilà des Cavs 2014. On en parlait avant de commencer justement. Il y a quelques occurrences type Andrew Wiggins qui a été drafté par Minnesota, non par Cleveland et envoyé à Minnesota. On parlait aussi de Penny, le coup de Penny Hardaway entre Orlando et Golden State avec Weber qui part à Golden State et Penny Hardaway à Orlando. Alors c'était pas du pick swap, hein, c'était
Non, c'était
voilà,
un
c'était un trade.
trade post post
Voilà,
post draft,
c'est
quoi.
ça. Et donc il est possible que Atlanta disent, bon, il n'y a aucun des joueurs qui nous convient, on pense qu'on est plus prêt que ce que ne pensent les gens d'être compétitif, et on va tenter de récupérer un joueur plus prêt, plus expérimenté. C'est une possibilité. A priori, ils aiment bien Alexar, mais ça on verra après.
Ouais, ça peut tellement changer. Bah ouais, il y a le draft combine qui va arriver aussi. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui vont passer à la moulinette. Là.
Bien sûr.
Donc, on sait que des fois, il y a aussi des tendances qui se dégagent après les draft combine.
Ouais. Ouais. Mais ça reste donc une équipe gagnante, vu qu'elle avait que 3% de chance de décrocher le first pick. Ça aussi, on en parlait, mais tu me disais qu'il y avait eu pas mal il y avait déjà par le passé quelques équipes qui avaient un pourcentage de chances très très faible et qui avaient réussi à avoir le first pick.
Il y a eu des gros chanceux dans l'histoire de la draft. On peut revenir dans l'histoire récente. Le dernier, tu le disais, hein, c'était Wiggins en 2014. Ouais. Je crois que les Cavs avaient 1,7% de chance de l'avoir, le first pick. Donc, ils l'avaient aussitôt échangé contre Kevin Love, on s'en souvient. Ouais. Mais en tout cas, ils avaient choisi en première position pour la troisième fois en 4 ans, d'ailleurs. C'est incroyable. Ouais. Et justement, en 2011, ils avaient chopé Kyrie Irving avec là aussi 1,7% de chance d'avoir le first pick. Donc, on peut remonter aussi à D-Rose. On en parlait juste avant. Ouais. Derrick Rose, choisi en 2008 par Chicago. Là aussi, hein, je crois que c'était très faible, moins de 3%, c'était encore moins que les Hawks cette année.
Les théoriciens du complot avaient imaginé que David Stern voulait faire une petite fleur à Chicago pour tenter de remonter un peu la franchise qui partait un peu.
Ça avait marché, hein.
Ça avait plutôt bien fonctionné jusqu'à ce que le genou lâche, mais pendant quelques saisons, c'était effectivement les Bulls étaient revenus sur le haut de la scène. De toute façon, oui, un first pick, ça peut te faire décoller. Enfin, peut-être qu'Atlanta arrivera à surfer là-dessus, mais là, à chaque fois, on parle de draft où il y avait quand même des joueurs un peu. Bon, Kyrie avait très peu joué à la fac avec Duke à cause
très
de sa
ouais,
blessure.
Quelques matchs, ouais.
Wiggins, bon, même si après il a un peu déçu, c'était un joueur qui était annoncé très 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 fort aussi. Je le rappelle à chaque fois, du coup on fait notre mea culpa, mais on avait fait un hors-série Rivers où on avait fait un peu l'évolution du basket. Et à la fin, c'était Andrew Wiggins qui était censé être un peu le joueur ultime nouvelle génération. Donc c'est devenu un très bon joueur. Hein, c'est un
bien sûr.
Mais bon, voilà, pas aussi.
Mais vous n'étiez pas le seul à le dire, hein, sur toi.
Hein. Bah oui, voilà.
Vous n'étiez pas le seul à le penser. Mais t'as raison, pour les Hawks, c'est quand même. C'est un peu le bon timing, quoi. Cette saison, elle a été ratée. Et puis elle a été ratée de longue date. Hein. Ils ont mal commencé la saison. Ils l'ont un peu traversé comme un fantôme cette saison NBA. Ouais. Je pense que c'est un gros rayon de soleil et un gros coup de pouce du destin, là, ce first pick. On va voir ce qu'ils en font, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Que tu fasses un échange, que tu fasses un swap, que tu fasses que tu recrutes Alexar ou un autre joueur, c'est quand même un gros plus. Même médiatiquement, ça va apporter beaucoup de lumière sur la franchise. C'est vraiment, vraiment une belle opération pour Landry Fields et les autres.
C'est vrai, ouais. C'est vrai que Landry Fields est GM.
Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai l'air découvert. Là.
C'est vrai, le gars, il doit avoir 33 ans et il est déjà GM.
C'est clair. Il en fait 25. On se souvient de lui avec l'Insanity.
Avec Jeremy Lin, ouais.
Avec Jeremy Lin, ouais.
Il hébergeait Jeremy Lin sur son canapé pendant les premiers temps de l'Insanity. Mais oui, c'est vrai que c'est lui qui s'est retrouvé GM. Parmi les autres équipes qui peuvent être qualifiées de gagnantes après cette loterie, je sais pas, tu veux parler de qui? Parce que Washington finit deuxième, mais c'était attendu. Ils avaient quand même de grosses chances d'être dans le top 4. Enfin, c'était même, vu leur classement, c'était quasi obligatoire. Je trouve que Houston en 3.
Ouais.
Houston en 3, vu que, alors, il y avait cette histoire du pic avec les Nets. Donc, merci James Harden pour l'opération. Et du coup, Houston qui décroche le troisième pic. Ouais. Houston qui est une équipe qui n'est pas passée si loin que ça du play-in à l'ouest, donc ça a aussi quand même de la valeur. On a vu plein de bonnes choses. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les Rockets?
Typiquement, les Rockets, ils avaient 5% de chance d'avoir le troisième pick, tu vois, donc c'est plutôt aussi une belle opération pour eux. Non, je trouve ça top. Moi, j'aime bien le projet des Rockets, j'aime bien leur roster, j'aime bien la façon dont l'équipe est construite. On en a pas mal parlé, vous en avez beaucoup parlé sur Basket Session. Avec Alperen Şengün qui est en train de devenir un très fort joueur, et puis aussi avec la progression de Jalen Green qui avait été décevant dans sa première saison et puis qui est arrivé à rebondir pour devenir un vrai scoreur. Il a fait un max de cartons cette saison. Voilà, avec un mix un petit peu d'expérience avec des Fred VanVleet, champion NBA avec les Raptors, et puis voilà, des jeunes loups comme ceux qu'on vient de citer, mais il y en a d'autres au sein de l'effectif avec, j'oublie son nom, numéro 2 de la draft il y a deux ans, Jabari Smith Jr.
Jabari Smith Jr., ils ont eu Amen Thompson qui a fait une très bonne fin de saison notamment.
C'est vrai, ouais, qui a mis plus de temps que son frère à se lancer. Mais non, c'est super et je pense qu'ils ont vraiment l'occasion de renforcer encore un petit peu plus leur effectif. Alors là, ils annoncent plutôt du Reed Shepard, donc qui est plus sur un profil d'arrière-meneur, combo. Ouais. À voir, c'est toujours très hypothétique, mais non, tu as raison, c'est les autres grands gagnants de cette loterie, ouais,
Ouais.
c'est clair. Je pensais aussi aux Spurs, mais dans un
Bien sûr, ouais, les Spurs,
moindre mesure. Mais...
on va aller sur eux, évidemment, parce que ça intéresse tout le monde, c'est logique.
Bah
Juste
ouais.
pour sur les Rockets, je lisais, enfin, ils ont fait une émission sur ESPN un peu post-loterie hier. Alors Wojnarowski n'a pas encore de la breaking news à 100% fiable, mais il a des rumblings, des rumeurs qu'il entend ici et là, et il disait déjà que les Rockets seraient très très ambitieux l'année prochaine et n'avaient pas forcément l'intention de conserver ce troisième pick.
Ouais, c'est
Et
intéressant.
là, ils sont toujours sur le dossier Michael Bridges, apparemment. Alors, est-ce qu'un
Ok.
troisième pick, c'est suffisant? Est-ce que ça va plaire aux Nets? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de passer à autre chose? En tout cas, il y a des chances que Houston étudie très sérieusement la possibilité de trader ce troisième pick s'il considère que le joueur qu'il récupérerait avec n'est pas suffisamment prêt ou fort pour les aider à passer la seconde. Je crois que c'est chez The Ringer. Ça parlait de Nikola Topic, que je connais mal.
Ah oui.
Mais alors peut-être que si en suivant les Coupes d'Europe, est-ce qu'avec l'étoile rouge de Belgrade, t'es plus avancé que moi? Est-ce que tu l'as vu un peu?
Non, je l'ai assez peu vu, Nikola Topic, très
Ouais.
honnêtement.
Bah, de ce que j'ai, du coup, je me suis contenté un peu des highlights et de ce qui se dit, mais on est sur un meneur avec une grosse variété de passes, ce flair. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais le fameux flair serbe, la connaissance du jeu, l'intelligence, roublardise et compagnie.
Ouais.
Il a tout ça en lui. Il doit évidemment encore développer le shoot, la composante physique qui est inhérente à la NBA, mais on est là aussi sur un gros talent international. C'est d'ailleurs une cuvée avec beaucoup de joueurs internationaux. Il faudra que je
Ouais, il y
regarde,
en a
mais
beaucoup, ouais.
on est sur quelque chose d'assez important par rapport à d'autres années. Mais ouais, les Rockets sont plein d'options et c'est ce qui est intéressant pour leur développement. Est-ce qu'ils vont prendre un mec dès cette année ou est-ce qu'ils vont essayer de le trader pour un joueur déjà prêt? Parce que moi, c'est vraiment, enfin, voilà, tu le disais, hein, c'est avec ce qu'on a vu sur leur fin de saison, même sans Şengün, hein, qui n'a pas fait la fin de saison.
C'est vrai, ils font un super run sans lui, hein.
Ah ouais, c'est.
Ouais.
À un moment, ils ont fait, je sais pas, 10 ou 11 victoires de suite. Ils étaient vraiment
Complètement.
pas loin du play-in et ça a craqué à
Ouais.
la fin. Mais moi, j'étais très convaincu par Udoka, à vrai dire.
Ouais.
Voilà, c'est un coach qui. Tu vois, on se demandait si ça allait être une équipe en développement, qu'elle allait tanker. Alors, ok, bah, ils ont bien fait de pas tanker parce qu'ils ont développé des joueurs et en plus, ils récupèrent un troisième pick avec lequel ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire.
Ouais, c'est clair. Alors après, c'est un troisième pick d'une QV assez faible. C'est peut-être là où ils sont un peu moins vernis. Donc à voir s'ils l'utilisent comme tu disais. Toi, tu penses qu'il faudrait qu'ils aillent combler quel manque dans leur roster? Parce qu'ils ont quand même pas mal de profondeur.
Ouais, c'est ça.
C'est difficile de savoir où il faut aller
Bah,
modifier, changer, faire évoluer un petit peu
j'aime
le.
déjà bien l'équipe qu'ils ont. Est-ce que,
Ouais.
ouais, je sais pas, un ailier qui shoot. C'est pour ça que je pensais. Enfin, Michael Bridges, c'est bien parce qu'il y a de l'expérience, de la défense, du shoot. Alors, faut que ce soit le Michael Bridges de la deuxième partie de saison avec les Nets l'année dernière et pas celui qui se morfondait en voyant ses potes de Villanova s'éclater à New York et lui regarder par la
L'autre côté
fenêtre.
du pont.
De l'autre côté du pont. Je sais pas exactement quel profil. Peut-être ouais du un ailier ou un arrière qui score, qui shoot, qui apporte quelque chose. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec ce qu'ils ont déjà là, si chaque joueur se développe, si Şengün progresse un peu en défense, si
T'as
les autres
Cam
prennent en
Whitmore aussi.
expérience, Cam
Dans
Whitmore,
le
bah
côté un
vu
peu scoring, il est pas mal aussi.
exactement, bah c'était un des steals de
Ouais.
la dernière draft. Hein,
C'est clair.
c'était assez fou qui glisse autant, mais c'est pour ça, il y a plein de possibilités. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, parce qu'ils draftent plutôt bien ces dernières années. Ça va être intéressant.
Peut-être l'intérieur, je me dis, parce que derrière
Ouais.
Alperen Şengün, c'est quand même pas foufou ce qu'il propose.
Ouais.
Il faudra trouver peut-être un autre profil. Un
Bah,
peu, tu vois,
ouais.
le profil d'un Derek Lively qu'on voit
Lively, ouais.
avec les Mavs qui fait une belle saison et qui fait des playoffs solides.
Bah, comme
Un peu Rondo
intérieur,
Fletcher,
ouais.
mais bon, c'est pas une QV où il y a, bah,
Y a
y a Alex
Donovan,
Carr, mais.
y a Donovan Clingan, sinon du UConn. Alors, c'est. Le plafond semble pas hyper élevé, mais il y a des qualités de protection de cercle, il y a un peu de playmaking. Il vient d'un programme qui est très très bon, très très performant avec Dan Hurley. Enfin, on voit que les joueurs qui en sortent sont performants assez rapidement. Donc pourquoi pas Clingan
Ouais.
s'ils en attendent pas tout de suite monts et merveilles, ça peut être un genre de rotation intéressant. T'as raison, ça peut aussi être une piste, ce secteur intérieur.
Et ça va être intéressant à suivre en tout cas ce qu'ils vont faire du côté des Rockets, ouais, c'est clair.
Absolument. On peut parler du coup de San Antonio, du coup, c'est vrai que tu as raison. C'est voilà, pick 4 et pick 8. Et là, il y a un peu deux
Ouais.
écoles. Il y a un peu deux écoles. Quand on discute avec Antoine, il met tout de suite Lola. Il me dit non, non, il ne faut pas chercher à trader pour récupérer des vétérans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui. qui sont un peu frustrés de la première saison des Spurs sous Wembanyama, enfin avec Wembanyama, qui
ça fait
est...
que je suis frustré par les Spurs, mais...
Ouais, c'est ça. Mais tout à fait. Et du coup, là, maintenant que la patience semble nécessaire et de mise, parce que ce qu'il y a un joueur générationnel, ouais, il y en a quand même beaucoup qui se sont dit, bah, c'est pas normal qu'avec ces possibilités-là, ce talent-là, les Spurs n'aient pas été plus performants. Et du coup, cette saison 2, elle est très très attendue, parce que est-ce qu'ils vont chercher à renforcer l'équipe avec des vétérans capables de ne serait-ce que disputer le play-in, ou est-ce qu'ils vont continuer d'engranger les talents? Et c'est ça un peu la question. Et c'est là que je disais qu'il y a deux écoles, parce que avec le 4 et le 8, alors même si c'est une QV faible, bon, j'aime pas spécialement le. J'ai pas assez étudié en profondeur la QV.
On cite ce qu'on a lu, on cite ce qu'on a lu, on va dire
c'est
ça.
C'est ça. Mais alors. Paradoxalement, je connais mieux je connais plus de prospects fin de premier tour et au deuxième tour que là. Donc c'est pour ça que je sais pas. On verra si elle est faible ou si elle est juste profonde ou si elle est homogène. Enfin, ça on verra.
Ouais.
Mais
il y a pas de cosmos sans qu'il y ait forcément des stars, des superstars. En fait.
C'est pour ça qu'avec 4 et 8, normalement, si tu dis sur le marché, on a pick 4 et pick 8, qu'est-ce que vous nous proposez? Théoriquement, tu peux avoir des choses intéressantes quand même, même avec une QV pas exceptionnelle. Donc, toi, tu serais plutôt. Bah surtout que les Spurs, tu me disais que les Spurs te frustrent un peu depuis quelques années. Est-ce qu'avec avec ce que tu as vu de Wembanyama cette année et des joueurs autour, parce qu'il ne faut pas les oublier, est-ce que toi, tu serais plutôt à mettre le 4 et le 8 ou l'un des deux en balance pour récupérer du vétéran ou un meneur, ouais, par exemple, des choses comme ça? Ou est-ce que tu penses que là, il faut utiliser le vivier qu'il y a dans cette QV 2024?
En fait, ils sont pas dans la situation de Houston, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans une situation où ils ont limite accroché le play-in, où ils ont été compétitifs, ouais, au moins sur une partie de saison. Ils ont quand même toujours été plutôt à la traîne. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'ils draftent.
Ouais.
Je sais pas ce qu'ils peuvent avoir sur une QV comme celle-là en échange d'un coup 4, d'un pick 8. Alors, quand on dit qu'ils sont chanceux, c'est qu'ils étaient plutôt un peu plus bas dans les prévisions par rapport au proba. Donc le pick 4, il est plutôt cool pour eux. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à drafter, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont encore à développer, qui sont encore à dégrossir. Mis à part Devin Vassell, je ne sais pas qui est vraiment un produit fini dans les jeunes joueurs prometteurs. Il n'y en a pas vraiment. Donc que ce soit
Jeremy Sohan, ouais.
Trey Jones, Jeremy Sohan. Bon, j'oublie son nom sur l'aile. J'oublie comment il s'appelle déjà. L'ailier qui est là depuis plusieurs saisons, qui tourne à près de 20 points de moyenne.
Keldon Johnson.
Keldon Johnson. Ouais. Keldon Johnson, c'est peut-être le seul qui est peut-être pas loin de son plafond, je pense, et de son développement. Bon, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faudrait donner encore 1, 2, voire 3 ans à cette jeune équipe pour pouvoir en tirer le maximum. Après, c'est sûr que les attentes autour de Wemby, elles sont énormes. Est-ce que les gens vont laisser à Pop et à l'organisation des Spurs le temps nécessaire pour construire de cette manière-là? C'est à voir. Mais bon, quand je vois le temps qu'il laisse à Pop depuis la fin de l'expérience, on va dire, Kawhi, aller voir la première année avec la Marcus Aldridge et DeMar DeRozan, il lui laisse quand même pas mal de temps, quoi, parce qu'il y a des équipes qui ont des moins bons effectifs que Pop qui font des meilleures choses en termes de bilan, quand même. On peut se le dire. Donc j'ai l'impression que c'est lui qui va décider et qui va faire un peu comme il l'entend et à son rythme. Donc si je devais mettre une pièce, je la mettrais plus sur du draft que aller chercher un vétéran à la Fred VanVleet à Houston l'an dernier, par exemple.
Ah bah il a signé 5 ans, donc il a de la marge. En théorie, il peut encore expérimenter. Le côté laboratoire que certains ont déploré, moi je le trouvais plutôt intéressant dans un premier temps. C'est qu'au bout d'un moment, ça pouvait être frustrant, surtout au moment où il y a eu la limitation de minutes pour Wembanyama. Ça pouvait être frustrant parce qu'on sentait qu'avec lui, sur une plus longue durée, ça pouvait suffire. Moi maintenant, dans un premier temps, j'aurais été à me dire, je me disais souvent que ce serait intéressant de le voir tout de suite avec un meneur d'expérience, quelqu'un, un partenaire sur pick and roll, enfin des trucs très classiques. Hein.
Ouais.
Et d'un côté, ces derniers temps, Antoine m'a quand même plutôt convaincu. Pour lui, ça sert pas à grand chose. Il est dans tous les cas, c'est encore un jeune joueur qui va arriver à maturité relativement vite, mais ils ont le temps de réfléchir à ça et de continuer à faire progresser les autres. Et je pense qu'ils tiennent en très haute estime un mec comme Jeremy Sohan qui a servi de, voilà, pour le coup, lui il a été cobaye, hein, il a joué meneur alors que c'est pas son job. Ils ont tenté des choses, donc maintenant je suis un peu plus du côté de la patience à me dire qu'en plus. Bon, là, sur la draft, c'est sûr que ces dernières années, ça n'a pas été forcément fabuleux, en dehors de Wembanyama, évidemment, mais ça, c'était du tout cuit. Ils ont quand même encore, normalement, le personnel capable de drafter du beau monde, de savoir analyser un peu les forces en présence. Donc je serais aussi, je partirais aussi sur la draft. Après, pourquoi ne pas en mettre un en balance, tu vois, le 4 ou le 8
Complètement, ouais. À mon avis, le pick 8, c'est un truc que tu dois pouvoir
ouais, tu
faire,
vois,
l'échanger avec un joueur un peu aguerri, un peu expérimenté. Mais je partage ton avis. Là, ils ont sécurisé Devin Vassell aussi, qui a signé comme un gros contrat, je crois, l'été dernier, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Donc, ils l'ont pour une longue période encore. Et comme tu dis, hein, ils ont cette expérience-là de la draft. C'est-à-dire qu'ils savent drafter des mecs aux Spurs. Devin Vassell, c'est un pick 11. Ouais. Aujourd'hui, il fait quand même une très bonne saison dernière, ouais. à 20 points de moyenne. Je pense que c'est le joueur le plus régulier. Donc, ils ont Wemby qu'ils vont pouvoir prolonger dans la durée aussi. Donc, ils ont déjà une belle assise de ce point de vue-là. Jérémy Sohan, c'est pareil. Il est hyper prometteur. Ils vont pouvoir le prolonger lui aussi, puisqu'ils auront une longueur d'avance en l'ayant drafté. Donc, ils ont une super assise. Ils ont un super socle avec ces trois joueurs-là. Il y a moyen d'aller développer d'autres choses un petit peu autour. Mais comme tu dis, ça peut être tentant d'aller chercher le meneur qui peut te faire briller assez facilement. Enfin, tu mets un Chris Paul, peut-être un peu trop vieillissant maintenant, mais il y a 2 ans. Tu le jettes là chez les Spurs, je pense que Wemby il met 12 points juste sur des alley-oops, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Et ça, on l'a pas trop vu hein. du côté des Spurs cette saison. Les mecs ont eu du mal à le trouver, c'est quand même assez lunaire. Mais...
Et est-ce que avec ce. Parce que ça aussi, on l'a lu pas mal, de... même avant même qu'on connaisse l'ordre de cette draft, on parlait quand même pas mal du fait qu'avec le 4e pick, par exemple, on pouvait prendre un autre Français. Type Zachary Risaché qui était tantôt annoncé numéro 1, tantôt top 5. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pour le coup, toi, tu l'as quand même pas mal vu jouer cette année, tu l'as suivi avec B-Basket, tu l'as vu en live. Qu'est-ce qui t'inspire? À quel point est-ce qu'il est prêt pour la NBA? C'est quoi la marge de manœuvre, enfin, sa marge pour se développer? Qu'est-ce que, voilà, je pense que tu es quand même bien placé pour nous dire un peu ce que tu as vu de lui.
Ouais, j'ai pas mal vu Zachary Risaché jouer cette saison et je pense qu'il est NBA ready pour le coup. Et je pense qu'il l'a montré toute la saison et notamment en Eurocup. On peut rappeler qu'il a été élu meilleur jeune joueur de l'Eurocup. Il a un peu tiré la langue sur la fin de saison. Je pense qu'il était un petit peu juste en termes de coffre et un peu moins bien physiquement, beaucoup moins frais qu'il avait été sur les trois quarts de la saison. Mais c'est peut-être un peu son rookie wall à lui qu'il a pu heurter sur cette fin de saison, même s'il s'est rattrapé un peu sur la fin. Il a déjà le shoot pour lui, ça c'est certain. Il a un catch and shoot qui est hyper rapide. Je ne sais pas si tu as observé un peu la façon dont il récupérait le ballon et il envoyait. C'est très rapide,
c'est
un peu à l'image d'un Nicolas Batum. C'est assez marrant, ils ont cette similitude-là. De pouvoir attraper assez haut et de lancer très rapidement. Il est très adroit dans les corners. On voit qu'il y a un vrai geste, il y a une répétition, c'est certain. Et je pense qu'il est très à l'aise de ce point de vue-là. Donc, je pense vraiment en avance de là-dessus, sur le shoot. Il est très solide défensivement. Il a une longueur. Il est à 2-7, hein, si on le met en configuration US avec les chaussures. Donc, c'est quand même un ailier déjà de grande taille. Il est très long, il est rapide. Là où je m'interroge plus, c'est sur sa capacité à créer du jeu, sur sa capacité à devenir un peu plus scoreur naturel, la création de son propre shoot. Il est très bon dans la lecture, c'est un joueur qui sait jouer sans ballon, c'est un joueur intelligent, que ce soit dans le placement offensif ou défensif. Donc il a plein d'atouts hein, pour je pense, s'en sortir dès l'année prochaine. Mais j'ai du mal à me projeter sur un numéro 1, numéro 2 de draft.
Ouais, c'est ça.
On attend quand même un petit peu des stars en devenir, mais c'est des exceptions. C'est des gens qui savent scorer dans toutes les positions, qui sont capables vraiment de se créer du jeu pour eux-mêmes ou pour les autres. Et je le vois moins là-dessus pour l'instant. Après, il est très jeune, il a 19 ans, mais c'est un petit peu ça ce que je. Qu'est-ce que tu vois, toi, chez lui? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents, on en parle souvent.
Ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu as décrit et ce que je trouve intéressant, dans l'optique peut-être de le voir à San Antonio, c'est que là aussi, vu qu'il ne serait pas dans une équipe qui manque d'un leader ou d'une première option établie, il aurait peut-être ce loisir d'être, dans un premier temps, surtout peut-être un shooter, même s'il a d'autres qualités, comme tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup aimé tout, hein, son activité, son intelligence. Après, j'ai peut-être un soft spot naturel. J'aimais bien son père, tu vois, plus jeune. J'aimais beaucoup Stéphane Risaché.
Ouais,
ça ne nous rajeunit pas. mais je le trouve que c'est un garçon intelligent dans le jeu. Le shoot, c'est le truc qui impressionne tout de suite parce que il y a la mécanique, la hauteur à laquelle ça part, la vitesse. Et en NBA aujourd'hui, t'es grand, tu sais shooter. Bon, normalement, tu as ta place. Et le fait que San Antonio est déjà en Victor Wembanyama et même autour. Tu parlais de Vassell aussi, qui est déjà un joueur qui a du talent et qui est relativement mature. Je me dis que ça peut être un bon plan pour lui d'atterrir là.
Complètement.
ESPN le met en numéro 1, le continue de le mettre en numéro 1, je crois.
ESPN le met en deux,
Deux,
juste
bon.
derrière Alexandre Sarr, ouais.
Ouais, du coup, ça ferait qu'il ça pourrait être Washington, et là, ça m'inquiète un peu plus parce que.
Moi, j'aime pas du tout Washington pour le coup pour lui.
Bah ouais, bah oui, parce
C'est
que
embouteillage,
il y a
quoi.
pas de,
C'est,
y a,
y a
oui, et
Koulibaly,
puis
il y a
ouais.
Avdija, il y a Kyle Kuzma.
Et il y a pas de jeune leader
Non.
établi comme on voit dans plein de ces équipes-là. Donc les attentes autour de lui seraient sera un peu
Ouais,
trop élevé,
différent.
je pense, alors qu'à San Antonio ou ailleurs, d'ailleurs. Hein. Là, si je regarde dans la loterie, il serait bien. Bon, à Atlanta, pourquoi pas, ce serait pas déconnant. Il y a déjà Trae Young
Il y
qui
a
est.
DeAndre Hunter aussi.
Il y a DeAndre Hunter, ouais. Si on regarde. Bon, Houston, il y a déjà du monde, donc je sais pas, en termes
Ouais.
de temps de jeu, ça me paraît un peu compliqué. Détroit en 5, si ça glisse un peu, Bon, il y a un leader un
Il y
peu
a un vrai
établi.
spot pour le
Mais il y a
coup.
un spot, voilà.
Ouais. Il y a un vrai spot. Il y a quand même un leader avec Kate Cunningham, même si j'ai trouvé un poil décevant comme cette saison.
Mais est-ce qu'on lui souhaite d'aller à Détroit? C'est autre chose parce qu'on n'est pas
C'est
sûr
clair.
de la fiabilité du projet. Et après, si on descend un peu
Ouais.
aussi, ça peut être Charlotte en 6.
Ouais.
Charlotte, bon, t'as Brandon Miller qui a fait une très
Ouais.
bonne saison rookie. Le reste de
Miles
l'effectif est
Bridges
pas
aussi, hein.
fou. Miles
Miles
Bridges.
Bridges qui est quand même pas mal sur
Ouais,
son poste aussi, hein.
donc est-ce que là, il aurait vraiment le terrain d'expression? Portland, il y a des ailiers aussi en 7.
Ouais.
Donc non, et après on revient sur San Antonio en 8. Donc
C'est San Antonio en 8, ouais.
voilà, je
Et
me
moi j'adore,
dis.
hein. Moi j'adore Zachary Zaché aux Spurs. Je signe tout de suite. Je pense qu'il a vraiment la mentalité, le profil humain, la perso. On entend que, on a, enfin, on a que des bons retours sur sa personne aussi, sur le côté profil un peu humain. Moi, c'est ça qui me fait penser aujourd'hui. Il me fait penser un peu à un Trevor Ariza en fait.
Ah
Mais je parle
ouais.
de l'époque où il était un peu plus dynamique que
Oui,
juste
oui.
se planquer dans le corner, tu vois, où c'était un vrai slasher athlétique parce qu'il est quand même assez long aussi. Il a un peu ce côté, voilà, capable de scorer, capable de défendre, avec une longueur, tu vois, de segment, très orienté défense aussi, assez intelligent dans le jeu.
Ariza, il
J'adore
avait un
ce profil-là.
sacré corps, hein. Enfin, au niveau de l'envergure et tout, c'est un des joueurs que j'ai vu de très près.
Ah oui, à l'époque des Knicks, non? Quand il est
Alors,
drafté par les
il
Knicks?
était où quand je l'ai vu? Enfin, attends, j'essaie de me souvenir. Faudrait regarder la saison 2013-2014, parce que c'était un
Ouais.
match où ils affrontaient soit les Nets ou les Knicks quand j'étais là-bas. Et donc, il était en train de se changer. Et son corps m'a vraiment impressionné. Je ne le voyais pas à la télé, je ne le voyais pas aussi long. Et
Ouais.
là, du coup, tu comprends un peu comment il a fait son beurre aussi. C'était peut-être Washington, d'ailleurs, non? Je sais
Un
plus.
6-8 en 2013-2014, t'as raison, il est à Washington.
Bah, c'est ça, voilà. Bon, tu vois, il était avec les Wizards et
Il y a beaucoup
j'avais.
d'équipes aussi.
Ouais, c'est clair.
C'est dur de s'y retrouver.
C'est ça. Mais c'est ouais, bah, si c'est un morphotype Trevor Ariza, c'est quand même pas mal. C'est un mec qui a fait une carrière solide.
Ouais, c'est clair.
Mais ouais, bah, je suis comme toi, je cosigne. Hein, je cosigne la possibilité de le voir à San Antonio. Ça, on verra après. Il y aura les premiers retours aussi, les entretiens. Je pense aussi, avec tout ce que tu as dit, que là, en termes de personnalité, vu que c'est quelque chose qui est quand même assez important pour les Spurs, pour Popovich, je pense que là-dessus. Puis bon, si Victor ne serait-ce qu'un. Tant soit peu son mot à dire, je pense qu'il serait ravi d'avoir un autre joueur français prometteur avec
Ah
lequel
bah
il
c'est
va peut-être jouer
clair.
en équipe de France après.
C'est
Bon,
sûr.
ce serait intéressant.
Après ou dès maintenant, hein, c'est un autre débat, ça. Mais... Et
Ah
après,
ouais, c'est ça.
le gros plus de Zachary Zaché, c'est que c'est un joueur qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup le ballon pour être utile et briller, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas un garçon qui a besoin de bouffer la feuille pour s'exprimer.
Absolument.
Et ça, c'est pas mal aussi en termes d'atouts. Ça peut séduire pas mal d'équipes.
C'est plutôt pas mal, effectivement.
Mais du coup, on peut se faire un petit mot sur les Wizards. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de...
Les Wizards, c'est-à-dire qu'ils ont un de mes joueurs préférés en NBA.
Jordan Poole?
Pas Jordan Poole. Enfin, quand je dis un de mes joueurs préférés, c'est un joueur dans lequel je croyais beaucoup avant sa draft et que j'estime qu'il n'est pas tombé au bon endroit, selon moi, et dont je pense qu'il sera très très fort une fois qu'il sera parti de ce bourbier qu'est Washington. Je parle de Denis Avdija, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il sera très très fort quelque part ailleurs s'il arrive à partir. Mais autour de ça, enfin, j'aime pas les pièces qu'il y a dans cet effectif, donc c'est compliqué pour moi d'entrevoir. Alors, il y a Bilal, évidemment, que je trouve super, mais c'est pas le franchise player. Mais autour, c'est pour ça, c'est comme pour Détroit, j'ai du mal à souhaiter à quelqu'un, à un prospect que j'aimerais bien ou
Alors, c'est
auquel je
clair.
crois, d'atterrir là-bas parce que
Ça n'a ni queue ni tête, en fait,
Oui, c'est
l'équipe n'a ni
ça.
queue ni tête. Ouais.
Il y a le coaching et
On ne sait pas
c'est
quel est
censé
son
être fort.
ADN.
C'est censé être fort, mais j'ai pas, on n'a pas vu d'identité de jeu particulière. On
C'est
sait
ça.
pas, on sait pas si le franchise player a les épaules pour l'être dans une équipe qui est mieux que dans les bas-fonds. Il y a trop d'interrogations et en même temps, il y a des joueurs qui sont pas ridicules non plus. Donc je.
On sent pas de caractère dans l'équipe, il y a ça aussi. C'est pas des leaders avec du caractère. Hein. Kyle Kuzma, tu sais pas
Ouais.
trop ce qu'il est, quel est son type de leadership. Hein. Jordan Poole, j'en parle même pas parce qu'il est quand même trop
Ouais, c'est ça.
énigmatique et en dents de scie. Ouais, ça doit être très dur hein,
C'est pour
de
ça
se
que
projeter dans
j'ai
ce
le même point de
projet-là.
vue. J'ai du mal à, pour Washington et Détroit, dont je parlais, bah j'ai du mal à me projeter. Donc, alors là, Washington est en deux, donc c'est bien, ils sont forcément gagnants. Tu draftes en deux, c'est cool. Mais du coup, je ne sais pas sur quoi ils vont se
Se
fixer.
diriger, ouais.
C'est ça? Est-ce que. Il faut pas. Si c'est un joueur. Il n'y a aucun joueur qui semble être tout de suite prêt à être une première option, en tout cas, enfin, parmi ceux qu'on voit. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est ça la question. Il y a un profil de joueur parmi ceux qu'on évoque qui te semble suffisamment. Parce que là, il y a tous les talents US, voilà, les Rich Hepard, Dillingham,
Dillingham, ouais.
c'est des bons joueurs. Mais est-ce que Washington va se dire tout de suite, bah, on prend ces mecs-là en deux J'ai du mal à savoir.
Ouais, c'est difficile à dire. En tout cas, moi, j'aimerais pas que Zachary finisse là-bas. Au-delà du fait que ce soit un bourbier, je trouve qu'il y a un embouteillage sur les ailes, quoi. Quand tu as déjà Koulibaly, quand tu as Kyle Kuzma, quand tu as Denis Avdija, c'est des garçons qui jouent beaucoup de minutes, quoi. Donc, est-ce que lui va avoir vraiment un terrain d'expression suffisant s'il atterrit au Wizard? C'est à se demander. Après, est-ce qu'ils vont drafter? Est-ce qu'ils vont échanger leur pick 2? C'est une
Ça
possibilité chez
dépend
eux, hein.
où ils pensent qu'ils en sont en fait. Est-ce qu'ils ont
Bah,
plus
c'est
de.
ça.
Est-ce qu'ils croient vraiment parce que là du coup étant au niveau du coaching staff ça donne quoi? Parce que Chris Kieff était intérimaire. J'ai peut-être raté un épisode. Ils ont nommé un head coach.
Je me souviens pas, très honnêtement. Je saurais même pas te dire qui est le
C'était
coach des Wizards. Je sais qu'il a sauté en milieu de saison, non? Ils
mais
ont
ouais
changé
mais ouais
le
mais Chris Kieff du coup
coaching en quelques.
est intérimaire.
Ouais.
Si t'as ça sous la main, je veux bien.
Attends, je vais regarder. J'essaie de
Tu vois,
trouver ça.
je suis plus. Je me demande si j'ai pas raté un épisode avec les Wizards, tellement cette franchise me laisse indifférent.
C'est un feuilleton, c'est pour ça. T'as Wes Unseld et après Brian Keefe,
Voilà.
effectivement.
Oui, Brian Keefe, pardon, pas Chris Keefe,
Brian
autant.
Keefe, ouais.
Et donc ils ont pas encore nommé de successeur formellement, on est d'accord.
Je suis en train de regarder Brian Keefe. Est-ce qu'il est sous contrat pour l'année prochaine?
Donc dans tous les cas, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une situation établie où on sait qui tiendra
Non,
les
il est toujours
rênes.
intérim. Il
Ouais.
est coach intérimaire toujours, ouais.
Voilà. Il y a des franchises qui ont tranché, hein, c'est-à-dire qu'à Brooklyn, Kevin Ollie était intérimaire et ils ont nommé Jordi Fernandez. Donc voilà, là c'est établi, on sait à peu près dans quelle direction ça va. Washington, on est qu'au mois de mai, donc il y a le temps, mais ils savent toujours pas qui sera l'entraîneur principal la saison prochaine. Donc
Ouais, ça
je
ajoute
sais
encore plus à la
pas.
situation pourrie dans laquelle ils sont. Ouais.
Bah ouais, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer ils vont avec Poole, Kuzma, des joueurs qui sont censés plutôt ne pas être dans des projets de reconstruction, mais dans des projets un peu plus établis, avec des rôles moindres. C'est une énigme. Les Wizards, je pense qu'ils mériteront leur propre podcast pendant l'intersaison.
C'est clair,
Parce que là,
il y a trop à dire.
avec le 2, impossible de savoir ce qu'ils vont faire.
Mais après, élément de réponse quand même, Daniel Gafford, ils l'ont échangé contre des picks de draft, hein, notamment au premier tour 2024. Donc on peut imaginer qu'ils ont quand même envie de passer par la draft pour se
Ouais.
reconstruire et continuer à grandir s'ils y arrivent. Ouais.
Très bien, mais on verra pour les Wizards.
À suivre.
Parmi les autres équipes gagnantes, j'avais noté, mais bon, ça c'est parce que c'est en termes de compétences, j'avais noté que OKC était gagnant de cette loterie parce que bah, on sait à quel point Sam Presti est un formidable GM et un formidable détecteur de talent.
C'est
Et
clair.
OKC si je dis pas de bêtises, le deuxième bilan de la ligue, ou en tout cas qui a fini premier. Premier à l'Ouest, qui se retrouve avec un pic numéro 12 avec lequel ils ont déjà fait quelques très belles choses. En tout cas, sur ce range-là, ils ont pris des Cason Wallace l'année dernière, des joueurs de ce calibre-là. Donc c'est plutôt avec le trésor de guerre qui est déjà assez incroyable sur
C'est
les
clair.
55 prochaines années via le travail de Sam Presti. OKC qui se retrouve avec un pic numéro 12. Et donc quand on voit comment ils draftent, bah attention quoi.
Ouais, c'est clair. C'est surprenant de les voir là, mais visiblement, c'est via Houston. En fait, ils avaient récupéré ce pic-là via
Ouais.
Houston Rockets. Ouais, ils savent drafter, ils l'ont montré. Alors, c'est rigolo, sur le site d'ESPN, ils ont plutôt tendance à mettre en avant Cody Williams, qui est le frère, en fait, de Jalen Williams,
Ouais.
qui joue à Colorado, qui est un arrière, plutôt arrière, un peu moins grand que son frère, je crois. Et c'est là-bas qu'ils sont en train de l'envoyer. Donc, ça serait rigolo de voir les deux frères
Ouais,
Ellie
Williams,
en espérant plus
Williams,
tard.
il a fait partie des joueurs qui ont un temps été évoqués comme first pick potentiel, mais
Ça remonte,
sa
ouais.
saison à Colorado était un peu, alors, je sais pas si on peut dire décevante. On n'a pas assez étudié, on n'a pas regardé ce qu'ils ont fait dans le détail, mais je sais que globalement les experts s'accordent à dire que c'était moyen, on va dire, et que ça justifiait pas de le mettre comme first pick potentiel. Mais pourquoi pas OKC. Et puis là, on peut imaginer qu'ils vont tenter une trouvaille comme ils ont pu en faire, même en non drafté, les Lugans Dort et compagnie. Mais ils peuvent aussi trader, ils peuvent utiliser ce trésor de guerre et ce 12e pick. Parce que beaucoup de gens, enfin, ça va aussi dépendre de ce qu'ils vont faire pendant les playoffs,
C'est ça.
est-ce qu'à un moment
Jusqu'où
ils
ils
vont
vont
se
aller
heurter
de
à
cette
des
année,
limites, voilà. S'ils vont très loin, ils peuvent se dire, bah, non, on reste avec ça, il nous manque pas grand-chose, juste de l'expérience. S'ils s'arrêtent là, passent à Dallas, peut-être qu'ils vont se dire, il nous manque quelque chose, et là, ils ont un trésor de guerre. S'ils veulent faire venir une superstar, ils peuvent, en théorie, avec tout ce qu'ils ont.
Ouais, c'est clair.
Donc toutes les options sont envisageables.
Et puis ils ont tout en plus en magasin. Ils ont des jeunes qui peuvent devenir des superstars. Enfin, clairement, Jalen Williams, il a tout pour devenir une star de la ligue. Enfin, je pense, hein. Je sais pas ce que t'en
Absolument,
penses, toi.
si, carrément.
Bon, t'as quand même la main sur un joueur assez exceptionnel. Je parle même pas de Chet Holmgren, mais c'est vrai qu'ils ont des assets à tous les niveaux, quoi. Donc, la profondeur de banc, même des mecs comme Aaron Wiggins qui arrivent à performer en
Ouais.
playoff. Enfin, ils sont allés dénicher des gars. Bravo, quoi. Franchement, le taf réalisé, il est exceptionnel.
Ils ont
Donc,
du Isaiah Joe pour les shoots, qui est un des meilleurs
Isaiah
shooters
Joe,
purs. Ouais.
c'est incroyable, tu lui laisses 1 mètre, c'est systématiquement dedans. Ouais, c'est comme tu dis, c'est bien joué. Et puis se retrouver encore dans cette situation-là avec un 12e pick quand tu finis deuxième à l'ouest, ou deuxième, troisième bilan de la ligue.
Ouais, troisième bilan de la
Premier,
ligue.
deuxième, je sais plus.
Alors premier à l'ouest et deuxième bilan de la ligue, je crois.
Ah oui, derrière les Celtics, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est fort. On va voir, hein, ça va être intéressant.
Ouais.
Il faudra suivre ce qu'ils font contre les Mavs.
Oui, c'est ça va beaucoup. Enfin, tout va dépendre aussi de ça, et on aura peut-être une autre lecture. S'il se heurte, s'il y a une limite, une lacune criante, on va se dire, bah, tel joueur, tel All-Star remplirait parfaitement cette lacune. Bah, peut-être qu'on analysera ce 12e pick et les perspectives autour de ça différemment. Alors là, on a parlé des gagnants, il y a quand même eu des équipes. On en a évoqué quelques-unes, hein, notamment les Pistons, on peut revenir dessus, mais
Ouais.
les Pistons avaient le pire bilan de la ligue. Et pour la deuxième année consécutive, ils se retrouvent
En dehors du top 3.
en dehors du top 3. Donc
Ouais.
c'est là ils avaient c'était 50-50 pour être dans le top 4, et ils tombent au pick 5. Donc alors c'est moins grave que l'année dernière parce qu'il n'y a pas de Victor Wembanyama dans
Non,
l'équation.
c'est clair.
Mais ouais, les balles de ping-pong sont pas très favorables aux Detroit Pistons, et ça aide pas à avoir de l'optimisme pour la reconstruction immédiate, malheureusement.
Non, c'est vrai. Ça les aide pas à reconstruire. Pourtant, ils ont fait des moves qui n'étaient pas mauvais. Jaden Ivey, je pense qu'il faut encore lui laisser un petit peu de temps, mais sur la fin de saison, il y a eu du mieux. Un garçon comme Jalen Duren, il a fait du très bon boulot en
Ouais.
début de saison. Il a eu un petit passage à vide dans le milieu de saison et il est revenu un peu plus fort derrière. Ils ont quand même un petit peu de matos, mais ça paraît un petit peu tendre globalement. Et puis, je trouve que ça manque un peu de caractère aussi. Kate Cunningham, moi, c'est un peu l'énigme. Je le trouve aussi talentueux que difficile à cerner sur le plan un peu du leadership et de
Ouais.
la force de caractère. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ce pick-là, pick numéro 5 dans une draft comme celle-là. Est-ce que ça peut vraiment leur permettre de passer un petit cap, de monter un peu dans la hiérarchie de la conférence Est? Très honnêtement, j'en doute. Vraiment.
C'est compliqué. Et puis pour moi, enfin, moi, le
Ouais.
truc de base, je déteste critiquer les coachs, ou c'est pas mon job, c'est des gens qui sont très très compétents dans ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que c'est pas le mariage n'était pas bon, en fait,
Monty
avec
Williams.
Monty Williams, qui est un très bon coach, hein.
Ça semble pas être le bon, ouais.
Il a été coach de l'année il y a 2 ans.
2021.
Voilà, 2021, il va en finale avec les Suns. Enfin,
Ouais, non,
C'est effectivement un très bon coach qui est réputé depuis des années, qui a été dans des coaching staff de très grande qualité.
bien sûr.
Mais les Pistons sont dans un projet de reconstruction, et c'est un coach qui a été habitué à de la compétitivité dans un passé récent. Et là,
Même
il
à New
n'était
Orleans, hein.
pas. Ouais, bah ouais. Et il n'était pas, j'ai l'impression, dans une optique, une méthode de développement avec les jeunes joueurs qu'il y avait, et ça a été catastrophique. Et il est sous contrat pendant des années encore, donc je sais pas, est-ce que c'est là, même avec l'effectif, va pas je pense pas que l'effectif va être totalement remodelé, que ce cinquième pick va changer énormément de choses. Donc je suis un peu inquiet pour le fit, ce mariage-là entre Monty Williams et les Pistons, et j'ai du mal à cerner quel type de joueur aussi, comme tu disais, ils vont prendre à
Ouais,
ce
pour gravir
stade-là.
les échelons, quoi. Ouais.
Bah ouais.
Et c'est vrai qu'il y a des coachs pour tout, hein. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont un peu plug and play, puis il y a ceux qui ont connu un contexte, et puis qui dans un autre ont un peu plus de mal à se développer et à donner leur pleine mesure. Et c'est vrai que Monty Williams, je ne crois pas qu'il ait eu à faire ce... Enfin, une reconstruction, je pense que c'est un métier à part, quoi. C'est un autre boulot, quoi. Il faut développer les joueurs. Il n'y a pas que quand tu as des joueurs aguerris qui sont déjà installés, qui sont déjà rompus un petit peu à ce qu'une ligue comme la NBA te demande et exige. C'est différent que de gérer des gamins, parce que les mecs arrivent à 19 balais. Il y a plein d'aspects, en fait, en plus du basket, qu'il faut prendre en ligne de compte. Et je pense que tout ça, c'est un vrai métier. Il faut avoir une organisation, il faut avoir le staff qui va bien pour les développer, mais même au-delà du basket, finalement. Il faut aider un peu ces jeunes
C'est ce
hommes-là
que tu disais tout à
à
l'heure aussi,
grandir, quoi.
quand on discutait, tu disais que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on connaît moins bien les prospects, donc nous qui essayons de suivre autant que possible, mais je veux dire même les coachs NBA qui arrivent, les coachs et les coaching staff, donc il y a des scouts dans toutes les franchises, hein,
Bien
mais
sûr,
des
ouais.
joueurs là qui font du one and done, donc tu as l'échantillon sur lequel tu peux les analyser, avant de les avoir entre les mains, il est très faible. Donc en
C'est
situation de
clair.
match, tu as très peu de matchs à analyser, c'est un contexte universitaire. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant de cerner vraiment quel joueur te convient, quels sont les leviers activés avec tel ou tel joueur. Et Monty Williams, je pense qu'il s'est aussi heurté à ces trucs-là. Tu vois,
Complètement.
l'expérience avec Killian Hayes, par exemple, c'était. Alors, je dis pas que c'est de la faute de Monty Williams. Hein. Killian a eu du mal à
Non,
s'imposer dans tous
c'est
les
clair.
cas, même avant qu'il
On
y ait
lui a donné
Monty
du temps,
Williams.
on lui a donné beaucoup de choses à
Ben,
Kylian,
c'est
ouais.
ça, et ça. Bon, alors, du coup, Killian, par la force des choses, on est obligé de dire que ça a été un échec. Hein. Mais Détroit a pas eu. Alors, Ozar Thompson semble être plutôt un bon pic. La hype est un peu retombée.
Elle a un peu retombé rapidement même, je
Ouais,
trouve.
parce que
Ouais.
les limites offensives sont tellement
Ouais.
criantes que. Mais bon, c'est un joueur qui a joué en overtime elite, hein, donc
À fait.
c'est pas le niveau de compétition, mais c'est même pas ce qui est en NCAA. Mais il y a l'énorme talent défensif qui est là, c'est clair. Mais ouais, les choix des Pistons ces dernières années sont un peu compliqués. Ou en tout cas, c'est pas que c'est pas des bons joueurs. Hein. Tu parlais de Jaden Ivey, je trouve aussi très très bon. Il était fort à Purdue, hein. Ouais, Purdue, Jaden Ivey.
Et si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais peut-être sur lui, tu vois, dans les jeunes de Pistons. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut décoller, lui. Ouais.
Ouais, bah ça peut. Ils ont besoin de ça. Hein. Ils ont besoin de créer un peu d'espoir en fait chez les gens, tout bêtement,
Ouais, complètement,
parce
ouais.
qu'on se dit pas. Tu vois, il y a des équipes. Tu vois, une équipe dont on parlera peut-être, parce que je sais pas s'ils peuvent faire partie des déceptions, enfin des équipes déçues, mais Portland, tu vois, on a vu un peu Shedon Sharpe sur
Ouais,
une petite
complètement.
courte période. On se dit, ouais, lui, c'est un peu un joueur excitant. On sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Alors, c'est un peu moins jeune, mais Anfernee Simons, c'est un gros
Anthony Simons
scoreur.
aussi, ouais, bien sûr.
Scoot Henderson, il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures aussi, mais tu vois, sa fin de saison,
Sa
en
fin de
termes
saison
de
est mieux.
voilà, en playmaking,
Ouais,
c'était
il me
quand
fait
même
penser un peu à
intéressant.
Jalen Green, lui, tu vois. J'ai l'impression
Ouais.
qu'il commence doucement, mais je ne serais pas surpris de le voir passer un vrai step ou un vrai cap dans un second temps. Il a peut-être besoin de temps, mais je pense que la G League Ignite, c'est tellement. Je pense que c'est tellement pauvre aussi que la marche est quand même vachement haute. Hein.
C'est
Mine de
ça.
rien, des garçons qui sortent de la G League Ignite et qui performent en NBA, il n'y a pas beaucoup. Hein.
Bah, on n'en verra plus, hein, de toute façon, vu que
Oui,
l'équipe
alors
a
là c'est la
été.
fin, mais ouais.
Mais ouais,
Ah, mais si tu
l'expérience, on a
prends
vu ce que ça donne.
Kuminga, c'est pareil, il a mis du temps quand même un petit
Ouais.
peu à devenir un peu solide. Ouais, c'est pas un gars, c'est pas une garantie, quoi.
C'est ça. Et du coup, les Pistons, comme je disais, il manque ce joueur un peu où on se dit c'est bon, même si c'est compliqué, mais ils ont ce joueur qui permet de te dire à un moment ça va le faire. Ça pourrait être Cade Cunningham, mais
Ça devrait.
ça devrait l'être.
C'est là où les choses tournent pas rond, c'est que ça devrait être ce garçon-là. Il est trop talentueux pour ne pas être ce gars-là.
Et je me dis d'un côté, tu vois, et on en a pas mal parlé au moment où il y a eu cette série de défaites assez folle, c'est que on mesure pas parfois le poids que ça fait peser sur des jeunes joueurs
C'est
qui prennent
clair.
des habitudes. Alors, il y a plein de joueurs qui sont passés par des défaites, même les plus grands. Parmi les plus grands, il y a eu des joueurs qui sont passés par
Bien sûr.
des débuts de carrière très très compliqués et qui s'en sont sortis après. Mais là, je veux dire, t'es pas loin d'être la risée de la NBA à une ère où c'est très très médiatisé. Donc, c'est tu vois, c'est pour ça que je me demande si Cade Cunningham, à un moment, y arrivera dans ce rôle de numéro 1,
De
malgré
numéro 1,
tout le talent qu'il peut avoir. Donc, c'est un peu. Voilà, les Pistons, c'est pas pour décourager les auditeurs
ouais.
qui sont fans des Pistons. On sait qu'il y en a. Hein, c'est une franchise qui est quand même
Mythique.
mythique. Il y a des nostalgiques des Pistons. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à m'enflammer pour cette équipe, malheureusement.
Ouais, c'est clair. Je partage complètement ton avis, ouais. Pourtant, en début de
Parmi.
saison,
Ouais.
j'avais fait un papier
Oui,
sur
absolument.
le renouveau
Les renouvelés des
des
Pistons.
Pistons. Ouais, et puis par Cade Cunningham, dont en fait, je crois qu'il avait fait toute la prépa de Team USA
Ouais,
pour la Coupe du
c'était le
Monde.
meilleur joueur. Il disait que c'était le meilleur joueur du
C'est
camp
ça.
et qu'il a refusé du coup de participer.
Tout le monde l'avait encensé, les coachs les premiers, enfin bon, voilà, comme ils font tous les étés. Et encore une fois, on a mordu à l'hameçon et on s'est
Ouais.
emballé. Voilà.
Parmi les autres équipes, est-ce qu'il y a des équipes comme ça? Parce que là, je regarde. Bon, mais les Grizzlies, que voilà, les gens savent que j'aime bien les Grizzlies. Bon, ils sont 9e. Ils tablent plus sur le retour des joueurs qui n'étaient pas là, entre les blessés, les suspendus. Bon, je pense qu'ils sont pas plus déçus que ça. Ils attendaient pas monts et merveilles. Est-ce qu'il y a des équipes comme ça qui te.
Non, bon, y a les Kings qui vont drafter en
13?
13.
Ouais.
Alors, c'est pas très très haut, mais c'est comme on le disait pour OKC, c'est pas inintéressant. Pourquoi pas trouver des joueurs ou le joueur qui leur fait un peu défaut. On les voyait mieux cette année, hein. Je pense qu'ils
Ouais,
nous ont
bah
tous déçus, hein, les Kings. Ils avaient fait une super saison l'an dernier. Très étonnant de ne pas les voir refaire une très belle saison un peu sur la base de ce qu'ils avaient réalisé. Bon, il faudra voir comment ils s'y prennent, mais. Ils ont peut-être une carte à jouer de ce point de vue-là.
ouais.
Mais après, bon, on descend quand même beaucoup plus loin dans les.
Ouais,
Non, ce que je vois, c'est que les Lakers, ils sont en 17e. Et ben, je me dis peut-être que Bronny James va arriver.
En
Hein.
17, ouais, c'est marrant parce qu'au moment, juste avant qu'on enregistre, il y a eu l'alerte de Woj qui disait que il avait été comment dire, déclaré apte médicalement pour le basket 5 contre 5 au niveau professionnel et du coup, pour l'instant, il maintenait sa participation à la draft. 17, ça me paraît un peu haut.
Ouais, non, je plaisante.
Non, mais
On rigole.
c'est pas déconnant parce que je veux dire, avant qu'il y ait le problème cardiaque et la saison freshman ratée collectivement, hein, c'est pas que lui, hein.
Bien sûr.
De USC, il était souvent annoncé au premier tour. Hein. Donc
Ouais, tout à fait.
c'est pas déconnant. Donc les Lakers, c'est en le 17, en le 17e pick.
Ouais, ils ont le 17. Je crois que c'est leur seul pick du premier tour, si je dis pas de bêtises.
Je sais qu'ils
Ouais,
avaient quelque chose comme le
c'est leur seul
52 à un
pick.
moment aussi.
Ils en ont au second tour, ouais.
Ouais.
Ils sont en. Tac, tac, tac. Ouais, 55 même.
55. Bon, moi, à
Ouais.
la base, on l'imaginait plus de ce côté-là, avec
Mmh.
forcément les doutes autour de son état de santé, parce que le fait qu'il n'ait pas pu montrer grand-chose pour l'instant. Mais on va voir si les rumeurs sur la volonté de LeBron de jouer avec lui vont influer aussi sur les négociations avec les Lakers. Hein, ça fait partie des intrigues de
Ouais.
l'été.
Ça paraît tellement gros, non?
Ouais,
Ça te paraît pas trop gros cette histoire-là que LeBron décide de
c'est.
drafter son fils?
Non, mais c'est à l'échelle de voilà du personnage.
Ouais.
Non, ça me surprend pas et en même temps, enfin, il lui reste pas grand-chose à accomplir. Et il a dit que c'était un de ses rêves de jouer avec son fils. Il y a eu quelques obstacles sur la route et je pense que oui, non, c'est pas déconnant d'imaginer qu'il va en tout cas suggérer à Rob Pelinka de
Ouais.
surtout si c'est en 55. Tu vois, ils vont pas, si encore ils avaient le pick numéro 2 et qu'ils gâchaient entre guillemets un
Bien
pick
sûr,
avec ça,
bien sûr.
s'ils le prennent en 55, bon, ce
Ouais.
sera pas très
Mais
grave.
même un 17, hein, ça ressemble à un scandale hein, quand même.
Ouais.
Parce que il s'appelle pas Bronny James, je pense qu'il est même pas au second tour. Hein, donc
C'est probable avec ce qui lui
dans
est
l'état actuel des
arrivé.
choses, hein, avec ce qui
Avec
lui
ce
est
qui lui
arrivé,
est
bien sûr,
arrivé, voilà,
malheureusement.
c'est ça. Peut-être que pour finir, on peut peut-être parler un peu des autres prospects
Ouais.
français. On a parlé,
Deuxième
donc,
tour.
ouais, bah, on a parlé donc d'Alexandre Sarr à Perth, voilà, on en a pas mal discuté. Zachary Risacher aussi du côté de Bourg. On n'a pas parlé de Tidjane Salin qui est annoncé assez haut quand même, mine de rien,
Ouais, tout à fait.
globalement. Tidjane
Moi, j'aime
Salin avec
beaucoup Tidjane
Chaudière.
Salin.
Ouais,
Ouais.
qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Qu'est-ce que tu entrevois pour lui?
Ouais, alors, j'ai eu la chance de le voir jouer aussi cette saison. Alors, ce que tu vois avant tout, c'est un athlète. C'est que Zachary Risacher est grand, il est long, il est athlétique également. Mais Tidjane Salin, il y a une dimension athlétique supérieure. Il est costaud en plus d'être très long. Il est listé à 2,05 m, mais alors. 2,07 pour Risacher avec les chaussures, 2,05 pour Salin, mais à mon avis c'est sans les chaussures, parce que je crois qu'il est au moins aussi long, il a une envergure énorme. Donc ça c'est le premier truc que tu vois quand tu l'aperçois sur le terrain. Mais après, voilà, c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à dégainer. Je pense qu'il est encore perfectible sur le tir, il a encore la régularité de Zachary, mais il a la gestuelle et il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. C'est un excellent défenseur aussi. Aussi avec ses longs segments, comme on l'a dit, intelligent. Il a été élu. Alors lui, c'est le meilleur jeune joueur de la BCL, la Basketball Champions League. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de la C3 en foot. Là, ça doit te parler, ça,
Bien
chérie, non? La
sûr,
C3, hein?
absolument.
Donc voilà, il s'est déjà fait un joli CV. Il a brillé autant en championnat que justement en Coupe d'Europe cette saison. C'est un starter indiscutable du côté de Cholet. Je rappelle qu'il a encore que 18 ans. Je crois qu'il est du mois de septembre, donc c'est un très jeune joueur. Donc non, non, profil hyper intéressant, mais sur un registre un petit peu différent de celui de Zachary. Donc à voir comment il va se développer. Il a longtemps été annoncé en 6e position par ESPN. C'était les mock drafts de janvier, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, hein, ouais.
Ouais.
Et là, j'ai vu qu'il avait glissé en 14e position du côté de Portland. Et je trouve pas ça trop mal. Voilà, projet de reconstruction. Je pense qu'il y a de la place sur l'aile. Bon, il y a Jeremy Grant, mais à voir si Jeremy Grant va s'installer durablement à Portland.
Ouais, j'ai un doute.
Moi aussi, j'ai un doute.
Bon, il a un gros contrat hein, quand même. Mais,
il a un gros contrat, ouais. Il peut intéresser des franchises. Je sais que les Lakers ont souvent été intéressés par Jeremy Grant, par exemple. Il y a peut-être des choses à faire, mais moi, c'est une destination qui me plairait bien pour lui. Je pense que c'est une franchise qui est assez saine. John C. Billups, je ne sais pas, j'ai quelques interrogations sur son...
Ouais,
sur...
J'en ai beaucoup aussi, mais du
t'en
coup,
beaucoup.
A priori, il va être reconduit. Mais en fait, moi, je suis rancunier, je n'ai pas digéré que Billups soit préféré à Becky Hammon, il était finaliste. Oui. Bon, moi qui rêvais que Becky Hammon coach en NBA, mais ce n'est pas de la faute de Billups. Par contre, je n'ai pas vu grand-chose en termes d'empreinte de coach, de style de jeu depuis qu'il est là. C'est peut-être pas de sa faute, hein, mais c'est pour ça que je suis un peu sceptique là-dessus, mais ce n'est pas... Ça n'empêche pas de se développer. On demande à voir, effectivement. Ouais. Là, on espère déjà que tous les jeunes joueurs de l'équipe soient aptes. C'est-à-dire à la fois Scoot Henderson sur une saison pleine, Shaedon Sharpe aussi.
Qui a été beaucoup blessé, hein, lui.
Bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Donc, peut-être qu'avec toutes les munitions à disposition, Billups fera autre chose. Mais je suis assez d'accord, sinon, pour Tijan Salin, de ce que j'ai vu de lui à chaque fois, j'ai bien aimé. Pareil, j'aime bien la personnalité du garçon. J'aime bien la famille, hein, sa sœur, je trouve que sa sœur est excellente, c'est une super joueuse. Alors c'est pas elle qui va jouer à la place de son frère, hein, donc on peut pas. mais bon, pour moi c'est une famille solide. Donc s'il a les mêmes dispositions que sa sœur de ce côté-là, ça fera un très bon joueur NBA, je pense.
Ça devrait le faire.
Ouais.
Et puis un Scholte à Portland, ça va,
logiquement ça peut le faire.
Ça peut le faire. Mais là où je trouve qu'il est intéressant, c'est dans son mindset. Je le trouve très. Enfin, le garçon, il a pas froid aux yeux, quoi. Voilà, il hésite pas, il est sûr de sa force. Et on n'a pas l'impression qu'il se pose trop de questions. Et je trouve que ça matche bien avec le monde du basket américain,
absolument.
Ce genre d'état d'esprit généralement, donc c'est encourageant. Et tu le verrais où toi sinon? Enfin, je trouve que c'est bien aussi de l'avoir, enfin 6e ou 14e, finalement ça change pas grand chose, mis à part le salaire. Hein.
une équipe qui pourrait à la fois lui donner du temps de jeu sans trop en attendre, ça, c'est un peu ce truc là qui me plairait. Tu vois, c'est pas tellement qu'il y a besoin sur ce poste là ou particulièrement, mais. Quelque chose comme soit Memphis, soit Utah, tu vois, 9-10, où il pourrait discrètement apporter, parce que c'est deux équipes très bien coachées, donc je me dis que ces coachs-là le feront progresser, même si c'est pour 10-12 minutes par match, tu vois. C'est des équipes, alors Utah particulièrement, mais qui n'est pas ultra pressée d'être performant. Memphis, c'est autre chose, mais... donc ouais, quelque chose comme ça, une équipe qui ne sera pas ultra médiatisée et où il n'aura pas beaucoup de pression et en même temps il pourra faire son trou. Être très bien coaché, ça me paraît être, c'est une prérogative quand même. Hein. Donc c'est pour ça que Willardy à Utah, Taylor Jenkins à Memphis, je réfléchis plus comme ça, tu vois.
Ouais, complètement. Et comme tu dis, c'est des équipes où ça joue bien au basket. On se rappelle que Utah avait fait un super début de saison.
Ouais,
sans qu'on en attende monts et merveilles, ça peut être un bon. Ouais, bon. Il y a Chicago en 11 aussi. Hein. Moi, je me dis que Chicago, ça peut être aussi assez intéressant. Je pense qu'ils vont avoir envie de repartir un peu d'une feuille blanche. Faudra voir ce qui se passe cet été.
Ça, est-ce que ça va beaucoup trader? Logiquement, c'est censé beaucoup trader, mais qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du coaching staff? Ça non plus. Enfin, à moins que j'ai raté un épisode, ça c'est pas encore très très établi.
Ouais.
Je regarde en même temps que je te parle pour pas dire de bêtises parce que ça m'arrive d'oublier des choses. Mais Billy Donovan est toujours en poste.
Ouais, il est toujours en poste, hélas. Mais non, mais on parle beaucoup du départ de DeRozan. On sait que Lavine, il est systématiquement dans les rumeurs de trade. Je sais pas, je le verrais bien là-bas aussi. J'ai l'impression que c'est un profil qui a pas dans cet effectif. Typiquement.
Oui.
Complètement. Donc bon, écoute, à suivre. En tout cas, je trouve que c'est bien de le voir toujours annoncer premier tour. J'espère qu'il va y rester.
Pareil.
On aura la chance de le voir en NBA l'an prochain, ouais.
C'est ça. Et il reste quelques autres joueurs français inscrits dans cette draft. Sur certaines mock drafts, notamment chez The Ringer, on a Pacôme Dadier qui est 24e, donc premier tour. Alors que c'est un joueur dont on a pas mal parlé à un moment, il y a quelques années, parce que c'est un des meilleurs jeunes joueurs. C'était clairement établi comme un des jeunes joueurs français les plus prometteurs. Il y a eu les petites difficultés du côté du Paris Basket, sans entrer dans le détail. Il a été un peu placardisé pendant quelques mois avant de pouvoir partir en Allemagne. Et là, sa cote est en train de remonter un peu. Donc j'ai vu qu'il était annoncé parfois au premier tour.
Ouais, c'est surprenant hein, qu'il y ait des écarts aussi énormes dans les mock drafts là, sur son profil. Je l'ai pas beaucoup vu jouer en fait, très peu même. Donc, j'en sais pas beaucoup sur Paco Mbadié. J'ai suivi un peu son parcours hein, entre le Paris Basketball et Ulm. Et tu me rappelais donc tout à l'heure qu'il était parti un peu
Oui,
avec fracas du
c'est
club de
ça.
la capitale il y a 1 an et demi.
Ouais.
Donc, non, j'en sais pas grand-chose de Paco Mbadié et j'ai pas vu Ulm jouer cette saison. C'est
Ouais,
difficile
ça, bah, ça va
de
là,
se positionner là-dessus. Ouais.
pour son cas, ça va peut-être aussi dépendre d'un peut-être au niveau des entretiens, des workouts, une équipe qui peut flasher sur lui et se dire qu'il y a un gros potentiel pour l'instant inexploité. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc, mais j'avoue que nous, je saurais pas dire. On a plus de certitudes sur ce qu'ils sont capables d'apporter à un niveau. Un bon niveau européen déjà sur pas tous ceux qu'on a évoqués avant.
Bien sûr.
Là, pour Paco Mbadié, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi Melvin Agença qui est souvent annoncé au deuxième tour, qui est, bon, je veux dire qui est moins connu du grand public, mais si les gens ont suivi les campagnes des équipes de France jeunes, c'est un joueur qui s'est beaucoup mis en
Nous a
avant.
régalé l'an dernier. Hein.
Ah ouais, et puis
Salut.
les gens qui suivent Saint-Quentin aussi, que ça soit en Pro B ou cette année en Belgique Elite, c'est un joueur qui s'est quand même fait remarquer. Le nom de famille, forcément, parle aux gens. Hein. C'est pas du tout le même joueur que son oncle, non? C'est
Que
son oncle?
son cousin.
Cousin? Cousin,
Ouais,
pardon.
cousin.
Ouais, mais ouais.
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce
Ouais.
qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient cousins.
Ah ouais?
Je crois que Alexis Agença a découvert que c'était son cousin quand il a entendu parler de Melvin Agença.
C'est marrant, parce que ouais, du coup,
Voilà.
le nom de famille n'est pas commun.
Non, c'est clair. Ça fait penser à McGrady et Carter, tu sais, qui se sont
Ouais.
découverts cousins quand ils se sont retrouvés en NBA.
Eh ben,
C'est assez rigolo.
si Melvin peut avoir une
Ah ouais, c'est
carrière à la T-Mac ou à la Vince Carter,
Ah ben.
après avoir découvert cette ascendance,
Bah...
ça serait bien.
C'est clair. Non, mais comme tu dis, il a régalé à la Coupe du Monde l'an dernier U18. C'était vraiment le fer de lance
Ouais.
de l'équipe, hein, devant Zachary Risacher, entre autres. C'était lui le scoreur de l'équipe. Alors, c'est un grand gaucher, hein, il fait 2,3 m, je crois. Shooter, donc il est plutôt dans un profil de 3 and D pour
Oui.
l'instant, enfin, beaucoup du côté de Saint-Quentin. Profil intéressant, c'est un garçon qui est physiquement prêt. Il est assez
Ouais.
impressionnant, hein, quand tu le vois. Donc athlétique, il court très bien, rapide, cette capacité à shooter un peu partout. Il n'a pas eu de très haut cette saison. On ne peut pas dire qu'il ait fait des matchs un peu référence. Je trouve que c'est ce qui a manqué un peu sur sa saison. Il a manqué aussi un peu de régularité. Mais encore une fois, hein, c'est un jeune garçon. Il a voilà, à peine 19 ans, donc il faut lui laisser du temps. Mais bon, il faudra voir. Alors je sais pas, ils ont encore l'occasion d'enlever leur nom de la draft, hein, de toute façon,
Oui,
jusqu'au jour de la draft.
normalement, oui. Là, oui, ça va. Ils vont prendre un peu la température. Je pense qu'ils vont discuter avec des franchises qui les suivent sans doute depuis quelque temps, voir si cette année c'est possible d'être drafté.
C'est ça.
Bon, là, quand t'es pris, s'il est pris en 48, comme l'annonce de Ringer, ça peut être du draft and stash, enfin, où tu, voilà, t'attends, tu laisses des joueurs se développer en Europe,
Tout
ce
à
qui
fait.
peut être le cas de Melvin Agença.
Ouais.
Mais ça peut aussi être, on a vu des joueurs draftés très bas et intégrer tout de suite des effectifs, faire passer un peu de temps en G-League, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Mais tu as raison, c'est un garçon qui est
Complètement.
physiquement prêt. Moi, je l'avais vu, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu lorsque Bronny James était venu avec son
Ah
équipe.
oui, à Nanterre.
Voilà. Et donc, de près, pareil, l'impression visuelle de près, il est quand même impressionnant. C'est un
Il est
athlète.
impressionnant, ouais.
Tu te dis qu'il va pas trop galérer en NBA de ce point de vue-là sur l'impact physique, c'est pas ce qui va poser problème, quoi. Et
Complètement, ouais.
là-dessus, ça peut. Sur le profil 3D, qui est toujours très apprécié par les coachs NBA,
C'est ça.
si tu te dis que tu as un mec qui, après 2-3 ans de formation, peut être un type qui shoot et qui défend fort, bah écoute, il n'y a pas de raison que tu le prennes pas dans une rotation NBA. Donc c'est pour ça que avec son profil, je pense qu'il a vraiment une chance d'intégrer la ligue à court ou moyen terme. Après, dans quel rôle, on verra, mais.
Et puis c'est un garçon qui a de l'expérience, parce que l'an dernier il est quand même de la montée avec Saint-Quentin en Pro A, enfin en Battle League Elite. Donc il a 1 an de plus hein, que Zachary Outidjan. Il est de 2004, hein, donc il aura 20 ans là, en juin prochain. Mais il a quand même déjà 2 années d'expérience pleine en tant que professionnel. C'est pas rien quand même hein, avant de débuter en NBA. Donc bon, j'aurais tendance à penser que ce serait bien qu'il reste encore un peu plus longtemps en Europe. Et pourquoi pas à Saint-Quentin où le projet de jeu est hyper intéressant. On rappelle qu'ils sont en play-off là, ils vont affronter Monaco si je ne me trompe pas. Donc ils font une belle saison collective à suivre. Pas comme Dadier, plus difficile de. Ce qui est bien avec ces garçons-là, c'est qu'on a quand même le sentiment que ce sont des joueurs qui sont loin d'avoir atteint leur plafond. Autant des fois, tu sais, t'as eu des joueurs où on en a attendu beaucoup, mais le plafond était quand même plus très loin. Là, on a le sentiment que c'est encore des joueurs qui peuvent vraiment se développer, qui ont encore une grosse marge de progression. Donc bon. À voir, mais comme tu dis, il y aura aussi les entretiens pré-draft, il y aura plein de choses qui vont se faire, les workouts, et ils auront l'occasion d'en savoir plus sur leur chance réelle de draft.
C'est ça.
Puis après, ils vont. Ouais.
Mais le simple fait que là, les meilleurs prospects français soient comme ça considérés comme au premier ou deuxième tour, je trouve ça. Enfin, c'est une belle preuve que ça travaille bien. Après, on verra ce que ça donne. Je ne dis pas que parmi ceux-là, tous seront des stars NBA, mais le simple fait que, même dans une draft annoncée faible, encore une fois, je dis bien annoncée parce qu'on ne sait rien, ouais, que tu aies trois joueurs comme ça qui, à un moment donné de la saison, aient été top 10, top 8 de la draft, des mock drafts. Rien que ça, je trouve que c'est quand même prometteur et c'est bon. Ça nous pousse aussi nous Français à nous intéresser de plus près à tout ça.
C'est clair, mais on vit une période dorée hein, entre l'an dernier, cette année. C'est quand même exceptionnel. T'imagines si on a deux Français
coup sur coup, mais
on a draft, c'est surréaliste.
On l'a même pas dit, mais enfin, on nous aurait dit ça il y a quelques années, on n'aurait pas cru. Déjà bon, Maniama.
Tu te souviens de Tariq ou pas?
En 97,
tu t'en souviens?
C'était fou déjà, un Français en NBA, c'était incroyable. Et bon, il avait été à la fac aux États-Unis, donc il y avait un petit côté, là, un type, des types... Bon, Alexandre Sarr, il a un peu voyagé quand même, hein, entre l'Espagne et l'Australie, tout ça, mais c'est quand même des produits de la formation française à la base, et se dire que deux mecs de suite vont peut-être être numéro 1, c'est totalement fou, mais bon.
C'est surréaliste. Ouais. Mais c'est bien, profitons-en, et puis que ça profite surtout au basket français. Donc,
absolument.
Alors, je ne sais pas si on aura des débats sur la sélection pour les JO, mais je reviens sur Zakaria Risacher.
Ouais.
Tu le prends avec les Bleus ou tu ne le prends pas avec les Bleus ?
Je n'ai pas réfléchi dans le détail à qui je prendrais ou pas, mais l'annonce du groupe élargi, là on enregistre lundi, c'est jeudi. Dans un groupe élargi, ça me paraît très logique qu'il y soit.
Ouais.
Après, sur la liste finale, je ne sais pas s'il prendra le risque, entre guillemets, ou s'il traitera cette compétition. Elle est difficile à traiter comme un truc expérimental, tu vois. J'ai l'impression qu'il va y aller avec une escouade et c'est très compliqué. Il y a d'autres postes où ce sera compliqué, où il va devoir prendre des décisions. Est-ce qu'il prend sa fin ou pas? Mais si tu me dis qu'il est dans la liste, je ne suis pas choqué, je suis même plutôt content. Je me dis que ça lui fera une bonne expérience et que c'est la preuve que si Vincent Collet estime qu'il est prêt à contribuer, c'est qu'il l'est, quoi, tout simplement. Toi, j'ai l'impression que tu le prendrais.
Non, pas forcément, mais je pense que c'est un nom à considérer. En fait, j'entends beaucoup de choses sur il y a des mecs qui jouent pas, des mecs qui sont NBA mais qui jouent pas. Lui, pour le coup, il a joué à deux niveaux. MVP jeune de l'Eurocup, il fait une très belle saison en pro et elle n'est pas terminée parce qu'ils vont démarrer les playoffs. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à mettre à son crédit. Il a un profil qui est hyper intéressant. Après, voilà, c'est ta raison, c'est jeudi après-midi. Là, les deux listes qui vont sortir et ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce qu'on va être dans un mode un peu Rio où on offre un petit peu la dernière campagne à certains? Est-ce qu'on va faire des cadeaux ou pas? Est-ce qu'on va... Ça va être hyper... On va voir, ça va être hyper intéressant à suivre en tout cas.
On reviendra dessus évidemment dans le détail quand ça sortira. Quand il faudra aussi faire le cut à la fin pour la dernière liste, on reviendra évidemment dessus. Là pour l'instant, on s'est focalisé aujourd'hui sur la loterie, la draft et sur les joueurs français. Maxime, merci beaucoup. C'était intéressant de parler de tout
merci
ça.
Merci à toi, Chai.
Demain matin, vous retrouvez le CQFR comme d'habitude. Demain soir, il y aura une late session. Et tout au long de la semaine, continuez de suivre les playoffs avec nous. On discutera de ça tous les matins. D'ici là, passez une très bonne journée et à bientôt.
Ciao. Out there, and it's either play or get played.